rencontre de Jésus ait lieu avec des femmes.
C'est la règle du jeu, on fera toujours deux, trois questions.
Françoise, est-ce que tu as des questions? Tu as des questions?
Vous avez donc donné trois récits différents de femmes. Et est-ce qu'il y a, enfin, d'après vous, comme professeur, est-ce que vous y avez trouvé quelque chose de commun entre elles, comme femmes? Parce que le sujet de la de notre série de conférences, c'est les religions des femmes.
C'est des questions que moi je pourrais vous poser. Tout aussi bien, et que ça serait intéressant que plusieurs s'expriment là-dessus, hein, puisque c'est votre question, c'est vous qui. C'est à partir de vous-même que j'étais sollicitée pour lire des textes, et donc ça m'intéresserait d'avoir en retour ce que vous en pensez. Alors, la première question. Quelle est l'importance que ce soit des femmes, ou que permet de singulier le fait que ce soit des femmes? Bon, d'abord, dans l'Évangile, les personnages sont extrêmement différents. Je crois qu'il y a une grande complémentarité des personnages, et des récits de rencontres comme des récits de guérison, et que c'est la complémentarité qui construit un personnage hiérarchiquement supérieur aux différents personnages singuliers. Il me semble que les textes, ces évangiles nous disent que cette venue et cette rencontre de Jésus est pour tout être humain, quel qu'il soit, masculin, féminin, enfant, et qu'on a dans certaines séquences une complémentarité entre les personnages. Donc, c'est important que ce soit des femmes. C'est la moitié de l'humanité, et donc elle est concernée aussi. Et alors, peut-être que ces récits qui mettent en scène des femmes, en particulier avec ce don de parfum, c'est pourquoi j'ai retenu cela plutôt que d'autres récits de guérison, permettent aussi la prise en charge d'une dimension d'affectivité, d'expression sensuelle. Je ne veux pas dire tout de suite, peut-être les Français sexualisent trop vite, voient tout de suite de l'érotisme ou justement dans la femme pécheresse, un acte de prostitution, etc. Moi, je n'irai pas jusque-là, et ça dépend où on lit ces textes, les réactions ne sont pas les mêmes selon les cultures, c'est frappant. J'ai lu ça en Italie, dans une faculté de théologie, et l'expression était fort différente. Moi, je parlerais volontiers de ce qui est affectif, sensuel, avec la figure même du parfum. C'est tout à fait important, cette dimension de la sensualité qui est prise aussi en charge, mais qui n'est pas automatiquement érotisme et prostitution dans le récit. Ce qu'a fait la femme, est-ce que c'est ce dont elle avait l'habitude par ce geste? Justement, le texte ne dit rien sur le geste de cette femme. Il est ouvert aux interprétations, à l'interprétation de Jésus. C'est quelque chose qui m'a personnellement touchée. Donc une rencontre qui n'est pas forcément évidente, qui transgresse. Et il me semble que là, les évangiles aussi cherchent à travailler quelque chose, ce passage des frontières, là où il devrait y avoir non-échange, non-touché, et ben ça va jusqu'à un toucher figurer de cette façon-là, et puis interpréter, un appel d'interprétation, une interprétation qui donne une signification au geste, quel qu'il ait été, en quelque sorte. On ne sait pas le pourquoi, on voit, quand on lit le récit, on voit la scène se dérouler, cette femme joue au pied de Jésus un scénario, Et puis Jésus replace cet acte dans un scénario beaucoup plus large. Et il me semble que la figure des femmes permet de mettre en évidence certains aspects de l'humain qui sont en jeu dans ces récits. Mais je serais assez intéressée de vous entendre les uns les autres dire comment vous le recevez. Alors la deuxième question, c'est un petit peu la même. Hein. Quoi de commun dans ces récits, quelque chose qui est de l'ordre du don et d'un don excédant le don ordinaire s'exprime dans ces trois récits et dans l'échange de Jésus avec une femme. Quelque chose qui prend un sens, quelque chose qui est de l'ordre de l'excès, qui ne peut donc pas se résorber dans l'habitude, quelque chose qui choque et qui oblige le spectateur ou le lecteur à se situer, qui interpelle aussi le témoin du geste, et puis qui s'offre à l'interprétation, et on l'a vu avec le premier récit, au conflit d'interprétation. Sinon, le don est perdu, s'il n'est pas repris dans une interprétation. Alors, moi, je vois là-dedans aussi une image de l'Évangile lui-même, comme un récit d'une nouvelle heureuse en abondance, en surabondance, et qui se livre aussi au risque des interprétations, comme le geste de cette femme, d'une certaine façon. Mais peut-être là aussi, vous avez, par le fait que je vous surprenais en juxtaposant ou en articulant trois récits, vous avez peut-être perçu des éléments communs, justement des différences. Oui.
Une question, le mot pécheresse en grec, c'est quoi, là?
Oui, parce que Luc répète deux, trois fois pécheresse, qu'est-ce qu'on appelle une pécheresse?
Hamartolos, donc c'est la racine de celui qui a manqué la cible.
Voilà, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec prostitution.
Non, c'est pas un mot qui relève du champ sémantique de la prostitution, non, pas du tout. Mais on a dit que l'expression est pudique à cause de qui était pécheresse dans la ville. Moi, je ne suis pas si sûre que là.
Qui sait où on a dit.
Oui, pas mal de commentaires que j'ai lus. Peut-être masculin, d'ailleurs.
Mais ça,
voilà,
c'est
on l'a interprété comme ça, comme une expression pudique, pécheresse dans la ville, donc c'est une prostituée. La ville, dans l'Évangile de Luc, joue un rôle très important. La ville est comparée à une femme, dans la littérature intertestamentaire aussi. Jésus pleure sur la ville. Il a voulu rassembler comme une poule rassemble ses poussins et la ville ne s'est pas laissée rassembler. Donc on peut se demander si cette figure de la femme n'est pas une figure de Jérusalem et pas forcément sur le registre. Moi j'hésiterais aussi à tout de suite dire pécheresse.
Et puis pourquoi on l'a appelée Marie-Madeleine à d'autres époques?
Alors ça c'est la tradition qui a rassemblé plusieurs figures féminines. Marie-Madeleine c'est Marie de Magdala, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, dans le jardin où Jésus a été enseveli, et qui est le premier témoin de la résurrection de Jésus. Vous savez, elle le prend pour le jardinier. Elle voit donc Jésus ressuscité, et elle, puisque c'est dans le jardin, elle pense que c'est le jardinier. Et puis Jésus l'appelle par son nom, Marie, et à ce moment-là, elle le reconnaît, et Jésus l'envoie raconter aux disciples qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau. Donc on a rassemblé ces figures féminines dans des représentations, et dans l'art en particulier.
Tout à fait arbitrairement. Non, mais dans les textes,
il est question aussi de Marie Magdala dans l'évangile de Luc, dont Jésus avait chassé sept démons, il y a cette allusion. Alors du coup, ça la marque dans son passé pêcheur. Voilà. Mais ce sont... Oui, c'est la tradition de lecture qui les a rassemblés, l'iconographie en particulier, qui a fait une seule figure de ces différentes femmes. Mais ce sont des récits différents, dans des évangiles différents aussi, avec des tonalités différentes. Et merci de me poser des questions précises sur chaque personnage.
Dans ce sens reconnu à la perte,
oui.
On peut voir la vie contemplative qui apparemment ne sert à rien.
Oui, merci. Alors ça se prête effectivement à la lecture de différentes modalités d'existence, et vous en proposez une, tout à fait, qu'on pourrait contester du point de vue de l'utilité, même de ce geste de l'aumône aux pauvres, qui est le geste premier de la piété juive. Donc effectivement, Jésus suspend cela un moment pour autre chose, parce que l'heure est telle. Et la vie contemplative, merci, oui, peut être tout à fait une suspension aussi d'une pratique dans le monde du quotidien, de l'économie, pour qui peut paraître comme une perte, mais qui peut s'interpréter autrement.
Quel lien faire avec le superflu qui est le parfum et l'eau qui est vitale?
Oui, alors il y aurait une complémentarité entre les récits. Vous suggéreriez?
Je pose la question.
Oui.
Quel lien peut-on faire?
Oui, c'est vrai. J'entends bien avec vous cette différence et du coup, pourquoi pas une complémentarité. Avec la Samaritaine, il est question d'une source sans laquelle il n'y a pas d'eau. C'est un puits au début, puis ça devient une source. En final, une source jaillissante, une source vive. Et puis le parfum paraît plus... comme un supplément. On n'est pas dans l'ordre de l'utile, effectivement, de l'indispensable. On est dans cette générosité qui déborde. Oui, ça va avec
elle. Ça symbolise l'abondance de l'amour.
Oui, une figure de l'amour, certainement. Oui,
oui, madame.
C'était une question qui revient un peu à une demande de précision, non pas du texte cette fois-ci, mais du contexte. Un juif, une samaritaine,
oui,
socialement, dans le contexte de l'époque,
oui,
qu'est-ce que ça signifie?
Alors, ils n'avaient pas de contact, ou les Juifs évitaient tout contact, parce que la population de Samarie avait été déportée, mêlée avec d'autres populations, il y avait eu des colons, et la population était revenue après déportation, et donc c'était une population mélangée, mêlée, qui pour les Juifs, où la conception de la pureté est fondée sur la différence, qui n'est pas de commun, justement pas de mélange. Le mélange est quelque chose qui est considéré comme impur. Donc on considérait comme impur ses frères, ses autres semblables. Et donc beaucoup de préjugés, toute une histoire de tensions, de conflits. Voilà. Donc pas de contact. Le contact permettrait la contamination. Et donc pas de contact. Oui, oui, bien sûr, la transgression. Oui, c'est absolument important. Et on évitait même de passer par la Samarie. Pourquoi il fallait traverser la Samarie? C'est le plus court chemin, mais on vient des tours, en général. Et Jésus, ou le texte dit il fallait. Alors quand il y a cet il fallait dans les textes bibliques, en général, ça suppose une volonté de Dieu qui n'est pas explicite ici. Ce n'est pas forcément parce qu'il est précis que c'est le plus court chemin, mais comme... on peut se poser la question, elle reste ouverte dans le texte, est-ce qu'il n'y a pas... Le texte ne pose pas comme une nécessité cette rencontre. Hein. On ne sait pas encore nécessité de quoi au début du récit, mais ça va s'avérer cette rencontre qui fait tomber des siècles de haine et de préjugés et des tabous aussi.
Au départ, donc, cette allusion, il fallait traverser la Samarie, peut être simplement une question de contexte.
Oui, ça pourrait. Mais dans l'évangile de Jean, c'est rarement seulement le contexte. C'est d'abord ça, c'est une traversée de l'actualité, c'est une prise en charge du réel et du concret, et puis ça s'additionne d'une lecture symbolique, en général. Alors c'est toujours difficile de savoir où on arrête le symbolique, où on le commence et où on l'arrête. Mais en général, il y a ça. Ce « il fallait » revient. D'ailleurs, il est deux autres fois dans le texte. Par exemple, au verset 20, Jésus lui dit, quand elle dit « Où est le lieu où il faut adorer ?» Jésus lui dit « Elle vient le... c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut... » Ah non, c'est dans la parole de la femme. « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Tandis que Jésus va dire au verset 24 « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, il faut qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. » non pas à Jérusalem dans un lieu historique et religieux humain, mais dans la profondeur intime de l'humain, dans sa spiritualité. Et c'est marqué aussi de ce « il faut ».
Mais les rencontres de Jésus, que ce soit avec les femmes ou même avec les hommes, c'est toujours avec des personnes qui sont un peu à la marge, pas très dans la norme.
Oui, donc, en général, oui. Et en même temps, chez Luc, vous avez vu qu'il va à table chez un pharisien. Ça, on ne trouve que chez Luc, trois fois. Mm-hmm. Bon, en général, ça se passe mal. Il ne respecte pas les convenances et ça finit dans la tension. Mais trois fois, il est invité chez un pharisien. Donc, il n'y a pas non plus, ça dépend des évangiles. Oui. Ça, on ne verrait pas dans l'évangile de Marc. C'est plutôt des marginaux, des gens, oui, tout à fait, à la marge. Et vous avez vu dans le premier récit, c'est Simon aussi, mais pas Simon le pharisien, Simon le lépreux. On a le même nom, mais chez Luc, c'est un pharisien, et chez Marc, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas approcher, parce que la lèpre est aussi... Alors, c'est éventuellement possible, mais quand le texte utilise ces qualificatifs-là, il donne des marques.
Ça correspond à ce qui est dit quelque part. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais
voilà.
Pour les autres.
Comme les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Donc, tout à fait. Tout à fait. Oui.
Oui.
Dans ces trois textes, vous êtes en contact avec ces trois femmes. Ça lui permet d'annoncer des choses assez étonnantes. D'abord, la première femme.
Oui.
Il annonce ça à sa mère et
oui.
Son embaumement, enfin, c'est quand même quelque chose de très fort.
Oui, très.
Puis après, avec le deuxième texte, il annonce la grâce par l'amour.
Oui.
Hein? Et alors le troisième, n'en revenons pas, il annonce qu'on ne doit plus adorer ni à Jérusalem, ni à
Tchot,
mais que c'est un esprit en vérité. Or, il n'en a encore jamais parlé, même avec ses disciples.
Tout à
fait. C'est la première fois qu'il en parle. Hein, dans les évangiles. C'est trois trucs très importants.
Tout à fait. Il y a quelque chose d'absolu qui se joue dans chacune de ces rencontres.
Ouais.
Et qui touche à la profondeur, à l'intention de sa venue, au but de sa venue,
ouais.
À la mort et à la résurrection. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, son dernier cri, ça sera « J'ai soif ». On peut voir à la fois la soif de la torture, du crucifié, mais on peut voir aussi une soif de Dieu. C'est lisible, comme souvent l'écriture johannique, recto verso. Mais c'est cette même soif qui commence ici, dans la rencontre avec cette femme. Oui, vous le dites magnifiquement. Un enjeu tout à fait décisif. Et qui anticipe la mort et la résurrection.
Oui.
Oui.
J'ai juste, tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez dit, par rapport à la parabole là, de celui
oui.
qui doit 500 deniers et l'autre, je ne sais plus combien, et on lui fait grâce, bon. Vous avez dit s'il y a dette, c'est parce qu'il y a eu don. Ben non, c'est parce qu'il y a eu prêt. Un prêt et un don, c'est pas pareil.
Oui.
Il y a dette, s'il y a prêt.
Tout à fait.
Si on me donne, moi je me sens pas du tout. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Je me sens pas du tout une dette envers le monde là. Je me sens heureuse de vivre ou déprimée si ça va mal, mais
oui.
Je me sens pas endettée du tout ni je sais pas quoi.
Alors ça dépend comment.
Dette et don, c'est pas pareil. Enfin, comme... prêt et don, c'est pas pareil.
Oui, non, tout à fait. Ça dépend comment on comprend le mot dette. Je ne comprenais pas au même niveau pour la parabole qui présuppose une remise de dette antérieure à l'amour. Ça, c'était dans la parabole. Mais après, je me suis dit, si il est question d'une dette, il y a eu quelque chose qui a précédé. Et j'ai simplement ouvert la possibilité que ça évoque un don premier de la vie. Mais ce n'est pas une dette au sens d'avoir un argent à rendre. Mais ce don de la vie...
C'est un don, c'est pas une dette.
Oui.
comme une part mélangée.
Oui, non, mais c'est vrai.
C'est pas une dette de la vie, moi, non. J'ai reçu que j'avais le don de la vie, mais pas à faire ça. Vous voyez ce que je dis?
Oui. Oui, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. Je pense que je voulais dire à peu près la même chose, mais vous avez raison que les termes sont connotés de façon forte et que ce n'est pas la même chose. Mais cette vie...
C'est les pervers qui donnent de l'amour ou autre, soi-disant de l'amour et autre, et qui
Non, mais ça, d'accord, non.
La personne, je t'ai aimé, donc tu me dois. Ça, c'est les pères et les mères pervers. On a la peine. C'est justement pas ce qu'est Dieu, enfin, j'espère.
Non. Non, non, tout à fait. Non, non, là, il y a un pur don de l'origine.
Oui,
mais
justement, qui nous, on lui doit rien. C'est ça qui est fantastique.
Oui.
Rose.
Oui, moi, je voulais faire remarquer que les rencontres avec les femmes, on a toujours souligné plus ou moins un aspect transgressif là, dans les trois récits, alors qu'en fait, pourtant, on sait que dans les évangiles, il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui étaient, enfin, ça semblait normal, en quelque sorte. Donc,
en tout cas, dans l'évangile de Luc, il y a une importance plus grande qui est faite aux femmes, on les nomme, etc.
Oui.
Bon, quand il est question des 12, on n'a pas mis des femmes dedans. C'est Marie de Magdala, Marie-Madeleine, dont on a parlé, est la première à bénéficier d'une apparition. On a un évangile de Marie-Madeleine, mais il n'a pas été retenu dans le canon. Après, l'histoire de l'Église a fait qu'on est revenu...
C'est l'histoire de l'Église qui a,
voilà, ouais, qui a fait une sélection. Oui. Et déjà, à l'intérieur des textes du canon, les épîtres pastorales à Tite et à Timothée renvoient plutôt la femme à la maternité qu'à l'apostolat.
Oui.
Mais c'est vrai que dans les récits évangéliques, ces femmes jouent un rôle extrêmement important.
Oui, absolument. Donc c'est plutôt au niveau de l'Église que la discrimination...
Vraisemblablement. Oui. Que Marie Magdala soit la première témoin et elle est envoyée dire aux disciples elle-même. Elle est porteuse du message pascal. Elle est apostolique, elle est envoyée.
Donc on a peut-être un chemin à faire à ce niveau-là.
Oui, certainement. Absolument. Et lire aussi ces textes postérieurs, hein, mais qui ont été attribués ou reconnus comme étant dont la femme est la figure d'apôtre. Alors, ils font pas partie du canon, ils n'ont pas, pour l'histoire de l'Église et pour la pratique ecclésiale, le même statut. Mais en même temps, ce sont des textes qui expriment une foi et une compréhension du monde aussi, tout à fait.
Dans le programme qu'on a distribué, que peuvent-elles encore nous apprendre aujourd'hui sur comment rencontrer celle ou celui qui est différent ?
Oui, j'ai envie de dire quelque chose parce que quand vous avez lu le premier texte et quand on a commencé à en parler, j'ai pas compris pourquoi dans ma tête je voyais en parallèle la scène du baptême de Jésus.
Donc, avec le premier texte.
Oui, pendant que vous disiez ça, on a commencé à en parler, je voyais en arrière-plan, je voyais cette scène sans comprendre pourquoi. Et bon, au fil de votre conférence, de vos explications, et puis ce dont je prends conscience en même temps, il me semble que ces deux femmes de Marc et de Luc, elles prophétisent que Jésus est le Messie, peut-être inconsciemment,
elles le reconnaissent
comme au moins, peut-être pas comme Messie, mais au moins comme un roi tel que on allait loindre dans les temps de la royauté d'Israël, et que cet excès de parfum, cet excès de pleurs, cet excès de baisers, cet excès, c'est l'excès du don de Dieu au roi qu'on est en train de reconnaître pour le peuple. Et maintenant, je me dis, ces deux femmes, elles sont prophètes. Et ce qui est curieux, c'est que la troisième, la Samaritaine, elle est vraiment dans... Alors, les deux premières ne parlent pas, elles disent rien. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle est bavarde, la Samaritaine. Et elle discute, et elle donne des contre-arguments. Elle discute, j'ai presque envie de dire, elle discutaille, jusqu'à ce que Jésus lui dise, appelle ton mari. Là, elle est touchée, c'est plus au niveau intellectuel, elle est touchée dans, Bon, c'est profond. Mais ça revient quand même, hein, parce qu'après, il faut qu'elle discute sur oui, mais elle veut ce qu'on doit adorer. Est-ce que c'est à tel endroit ou à tel autre? Et puis finalement, elle reconnaît quand même qu'il y a un Messie qui doit venir. Alors, quand Jésus lui dit c'est moi, on ne sait pas si elle dit oui ou non, enfin, pas dans ce passage-là.
Alors après, on voit les disciples qui reviennent et qui, comme quelqu'un l'a souligné, là, l'écart est assez construit entre ce personnage féminin et les disciples. Ils ont vu que Jésus parlait avec une femme, ils sont choqués, ils ne posent même pas de questions. Il n'y a pas cette entrée dans le dialogue, dans la parole échangée, même s'il est bavard, comme vous l'avez dit. Et puis elle va témoigner qu'il lui a dit, et les Samaritains viennent voir Jésus, et le reconnaissent comme le sauveur du monde, qu'on trouve nulle part ailleurs dans l'évangile de Jean.
C'est à ce moment-là qu'elle devient prophète,
voilà.
Comme les deux autres. Si on
peut... Mais je serais bien d'accord avec cette figure prophétique, par rapport à l'onction royale.
Oui.
Tout à fait. Il y a quelque chose de prophétique... Peut-être que d'ailleurs, chez Simon le Pharisien, chez Luc, le rôle du prophète est partagé entre Jésus et la femme. Juste avant, on nous a dit qu'il est reconnu comme un prophète. Il a ressuscité la veuve, le fils de la veuve de Naïm, comme le fils de la veuve de Sarepta. Donc il est reconnu comme prophète, mais c'est la femme aussi qui joue ce rôle de prophète. Peut-être qu'il le partage de toute façon, à la fois le don et l'interprétation.
Oui, mais Mirana.
J'aime beaucoup la femme samaritaine, justement dans son bavardage, parce que c'est des paroles directes, vraies. Hein, de sa position de femme, de ses préoccupations, mais tu n'as même pas de seau, tu veux boire. Après, donne-moi cette eau qui est gratuite, comme ça je n'aurai plus à venir au puits. C'est vraiment du vécu, quoi. Bon, moi j'ai eu quelques expériences de chercher de l'eau sous le soleil tapant et je vous jure, c'est pas drôle du tout. Et je crois que justement, tellement il est réel dans sa parole, selon son expérience vécue, que Jésus ne pouvait que poursuivre sur sa vie, enfin parler de sa vie à elle, ses cinq maris. Donc c'est vraiment en fait Jésus est rentré dans sa parole à elle, dans son style de parole à elle aussi, dans ce dialogue, et pour aboutir ensemble à la fin sur le thème du Messie,
à la vérité. Je n'étais pas vérité, assez voilà. Soulignée, ouais. Il lui dit tu as dit vrai. Quand elle commence à demander, au fond, il peut la faire accéder à la vérité, à sa vérité. Un accès à elle-même, qui soit de l'ordre du frère.
Et d'un élargissement au-delà de la judéité et du peuple juif.
Oui.
Du coup.
Oui, tout à fait.
Et alors, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, notre... propre langage, on n'a pas besoin d'un langage spécifiquement théologique ou d'un langage pieux ou d'un notre propre langage de notre être dans la situation où nous nous trouvons, dans le milieu où nous nous trouvons, dialogue avec le Christ. Et il le comprend et il le happe au passage.
Il entre dedans, voilà, il le fait progresser. Moi, j'aime aussi beaucoup, ben, j'ai suggéré dans ma lecture, mais c'est un choix par rapport à d'autres lectures que j'ai lues, on parle beaucoup du malentendu dans l'évangile de Jean, des différents personnages qui dialoguent avec Jésus, comme Nicodème, qui croit qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère pour une nouvelle naissance, etc. Et puis, on dit souvent, les personnages sont dans le malentendu, puis nous, lecteurs, on sait, on ne se trompe pas et on se moque du personnage. un peu grotesque dans ses réponses. Moi, je ne me suis dit pas du tout. J'ai l'impression qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle a compris, ce qu'elle n'a pas compris. On avance un peu comme le personnage dans l'ombre et la lumière, en tâtonnant vers quelque chose. On sent qu'il y a du vrai, mais on peut pas dire clairement à quel niveau elle parle exactement. Jésus l'a fait progresser, de monter d'un niveau à un autre, mais ça se passe en glissant et peut-être malgré elle aussi, à travers les mots, l'usage des mots. Puis Jésus rebondit, et la reprend là où elle est, puis amène une étape suivante. Moi, que je n'ai plus soif, qui passe à une autre soif, justement, celle d'une vérité de sa vie.
Elle a une foi spontanée à ce moment-là.
Oui.
Donne-moi que j'ai plus soif, mais si toi, elle va proclamer que c'est le Messie, je trouve que c'est ça qui me touche le plus.
Ouais.
C'est sa spontanéité, tout de suite. Elle croit et elle va l'annoncer.
Alors, la dernière phrase là, du texte, je le suis, je suis moi qui te parle. Ce je suis, en grec, c'est goémi, ça reprend la révélation de Dieu au buisson ardent à Moïse. Je suis qui je suis, je suis qui je serai.
Je le suis.
Voilà, il dit ego et moi, je suis. Au fond, en laissant Dieu se révéler en lui. Mais pour les pharisiens, dans l'évangile de Jean, c'est pris comme un blasphème. Prétendre être Dieu, se faire Dieu soi-même. Il se révèle, mais il se livre en même temps. Ou on entre dans cette vérité, ou on prend les pierres pour le lapider. Il s'est mis en scène plus loin. Donc là, il est tout entier dans cette parole, l'échange. On se présente la parole.
Ce n'est pas l'un des seuls endroits où il le dit, d'ailleurs, en l'affirmant, je le suis.
Il y a plusieurs fois dans l'évangile de Jean qu'on a je suis. Et même trois fois l'absolu. On a des attributs, hein. Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la vigne, etc. Mais on a, au moment de l'arrestation, dans un jardin, trois fois il dit je suis. Bon, ils viennent chercher Jésus de Nazareth et il dit c'est moi. On peut l'entendre au premier niveau, mais en même temps, on peut entendre qu'au moment où il va au-devant de ceux qui l'arrêtent, il révèle Dieu. Il se révèle, il laisse révéler Dieu. Dieu se révèle en lui. Donc, on peut l'entendre à l'absolu, puis il le dit trois fois.
Là, c'est en réponse directe à celui qu'on appelle Christ et il répond je le suis.
Voilà.
Ouais. C'est pas trop fréquent quand même comme.
Non, là, c'est par rapport à la question. Chaque fois dans un contexte différent, mais en même temps, ça s'entend chaque fois à l'absolu aussi, en quelque sorte.
D'autres questions?
Je voudrais savoir comment Jésus a pu savoir, en contact avec sa Marie-Denis, qu'il ne connaissait pas, comment il a pu qu'elle avait eu cette marie.
C'est déjà pas mal. Plus sa concubine.
Parce qu'il est Dieu, justement.
Oui, on peut se poser la question. C'est pas moi qui peux vous répondre. L'évangile de Jean le construit.
Non, mais il connaissait le cousin de la cousine, du frère, de l'oncle, du machin. Voilà, ça se dit tout ça. Non, mais je dis, il connaissait le cousin de la cousine, de la belle-sœur, du machin. Il avait dit que.
La réputation pour.
Il avait été dans le pays aussi, peut-être. Il avait été dans le pays autour du sud, hein, puis il a entendu.
On peut imaginer tout cela. C'est pas ce qui importe au texte quand il raconte de nous montrer ça. Donc on peut se poser la question, effectivement, trouver des raisons tout à fait humaines possibles de l'expliquer. Ce que le texte veut nous montrer, c'est combien il perce, il pénètre au plus profond du cœur et il appelle à une vérité de l'être, en reconnaissant la vérité, c'est ça. Elle le dit, elle. Qu'elle en a eu ça.
C'est une question. Est-ce que vous savez, puisque j'ai appris par hasard par un documentaire sur... sur la Bible, etc., en fait, que les Samaritains, la tradition samaritaine est toujours vivante actuellement, au XXIe siècle. Et finalement, ils sont combien? Où? Et puis, pourquoi, finalement, pourquoi on, je sais pas comment dire, on parle des Juifs, les Juifs, les judaïsmes, Israël, pourquoi pas les Samaritains? Ils sont autant, et ils sont beaucoup plus, comment dire, à la limite, ils ont gardé beaucoup plus les traditions anciennes que les Juifs actuels, qui n'ont quasiment rien à voir avec ce qui se passe dans l'Ancien Testament.
Je peux tenter une réponse. Oui. Bon, les Samaritains, il y a l'explication que donnait tout à l'heure Corinna, mais qui n'est plus vraiment à l'heure actuelle l'expression historique. On pense qu'en fait, la séparation entre les Samaritains et les Juifs est intervenue beaucoup plus tard que ce qu'essaie de nous faire croire la Bible. Mm-hmm. C'est pas des populations extérieures. C'est des populations du royaume du Nord face au royaume du Sud. Le royaume du Nord a été détruit le premier, et c'est le royaume du Sud qui a écrit l'histoire, en grande partie, en récupérant un certain nombre quand même de traditions du Nord. Mais c'est donc ceux qui racontent l'histoire, c'est ceux du Sud, c'est les Juifs, c'est Judas. Le Nord, c'est...
Ça oui, mais Judas, ils ont été déportés aussi.
C'est ceux qui ont été vaincus par l'histoire et qui ont été déportés les premiers, dont on a perdu pratiquement la trace. Maintenant, à l'heure actuelle, les Samaritains avaient quasiment disparu, disons, au début du XXe siècle. Et il en restait un petit groupe à Naplouse et un petit groupe dans la banlieue de Tel Aviv. Et la guerre des six jours, celle qui a fait passer les territoires occupés sous la domination juive, a permis à ces deux groupes de se rencontrer à nouveau et a quelque peu diminué les mariages consanguins. À part ça, il y a eu une décision des autorités samaritaines à autoriser les Samaritains à épouser des femmes juives. Donc il y a eu un renouvellement, parce que là il y avait un appauvrissement génétique qui était franchement catastrophique. Donc le groupe des Samaritains a repris un peu de vigueur, ils sont plusieurs centaines, donc essentiellement dans ces deux lieux, et ils continuent à célébrer la Pâque sur le mont Garizim tous les ans, avec sans doute pas mal de touristes tout autour. Enfin, bon.
Puis les sacrifices d'animaux aussi.
Ah ben, oui, bien sûr, sacrifice du mouton.
Alors pour les cinq mariés, j'ai pas dit, mais il y a une interprétation
sur les cinq livres de la loi
où cinq divinités différentes qui a été à l'origine des cultes. Donc on ne sait pas s'il faut le lire sur le plan conjugal ou sur le plan religieux. D'ailleurs, le plan conjugal est souvent une